seul.
Cet extrait du récit de Jean-Christophe Bailly, Tuiles détachées, publié au Mercure de France, était lu par Mathieu Lagarrigue. Jean-Christophe Bailly est également l'auteur du texte accompagnant les photographies de Françoise Nouniez, dont l'ouvrage L'Inde jour et nuit vient de paraître chez Filigrane Édition. Réalisation, Claire Levasseur, Mathias Alléon, Ghislaine David. Léo Ferré est mort il y a 11 ans, c'était le 14 juillet 1993. Mémorable vous propose les 4 entretiens de Léo Ferré avec Émile Noël, diffusés la première fois en 1971. Aujourd'hui, troisième partie, tu nous chantes le pauvre bœuf, Léo.
Est-ce qu'on peut être solitaire? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être solitaire alors que la caractéristique du solitaire, c'est précisément qu'il a envie de n'être pas seul. Je ne sais pas si un solitaire, c'est pas précisément le plus beau tissu de contradiction qui puisse exister.
Sûrement, mais la solitude, ça se passe dans la tête. Hein. Et c'est le seul drame, la solitude, effectivement, parce que elle est réelle. On a l'habitude de dire qu'on est seul dans une foule, c'est vrai. Maintenant, la solitude matérielle, si j'ose dire, c'est-à-dire le type qui vit dans une maison tout seul, qui se fait sa cuisine, qui se fait son lit, ça c'est difficile, c'est ça qui est difficile, je pense. Mais la solitude, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est comme ça, quoi. Les gens sont seuls ou non, quoi. Je pense.
Mais l'amitié, vous m'avez dit tout à l'heure au début de cet entretien, bon, à la rigueur, dans la vie, on a un, deux, trois amis, enfin, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Et c'est déjà un jugement de solitaire, puisque c'est le jugement d'un homme très très sélectif. Et si en plus il a peu d'amis, c'est parce qu'il est exigeant en amitié, et c'est par conséquent parce que l'amitié a beaucoup d'importance.
Non, moi je crois pas. Vous savez, l'amitié, rencontre l'autre, c'est d'abord une chance incroyable. Et puis la vie n'est pas assez longue pour pouvoir avoir cette chance deux fois. Quand on a la chance de rencontrer un ami. Pour moi, un ami, c'est celui sur lequel on n'a jamais d'arrière-pensée. Voilà. Je dis que vous êtes là, vous restez 2 heures sans parler, vous êtes toujours d'accord. Vous êtes d'accord sur tout, sur tout, sur tout, sur tout. On ne se fait jamais de concession en disant, mais t'as peut-être raison. Non, non, on est toujours d'accord sur tout. C'est pour moi le type qui vient me dire, j'aime bien ce que tu fais, mais je dis, si tu dis mais, va-t'en, c'est pas un ami. Même si je fais une connerie, il faut que tu dises que c'est une connerie, mais que tu es d'accord, et que tu l'aurais fait en même temps que moi. Là, t'es un ami. Sinon, t'es pas un ami. Ouais, on est tellement seul quand on est artiste, le type vient vous dire, c'est très bien, puis on sent venir de loin. Moi, j'en ai vu, comme ça, j'en ai connu. Ah, cela, j'ai envie de les bouffer. Moi, je dis que mon ami, c'est celui qui rentre à la maison, qui ne se suit pas les pieds d'abord sur le paillasson, qui vient puis qui s'installe comme ça, sans en rajouter d'ailleurs, et qui est d'accord avec moi sur tout. Sur tout. Et surtout sur ce que, sur lequel il ne devrait pas être d'accord s'il était lucide. Voilà.
C'est une forme d'aveuglement ou
Oui,
c'est
mais
une adhésion?
Mais l'amour, c'est l'aveuglement. Sinon, c'est plus l'amour. L'amour, c'est l'aveuglement. Quand vous aimez une femme, il faut être aveugle pour aimer une femme. Si on juge une femme, c'est fini, quoi. Hein? Fait comme Kant.
C'est peut-être pour ça qu'Homère, qui était aveugle, c'est
Oui.
pour ça qu'il a écrit Hélène.
Madame, où courez-vous dans le vacarme et le silence? Du devoir, madame, tu vas retrouver ton mari pendant que l'autre fait la pause. Madame, le bonheur, ça n'est pas grand-chose. madame, c'est du chagrin qui se repose. Alors, il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est?
La musique, j'y reviens maintenant parce que, bon, on a beaucoup parlé des chansons, mais on n'a pas tellement parlé de cet oratorio ou des compositions plus importantes que vous avez tentées. Est-ce que c'était pour vous, comment dire, une obligation, une pulsion? Est-ce que vous aviez envie de vous prouver que vous étiez un compositeur plus important qu'un mélodiste de chansons ou quoi?
Oui, alors moi, j'avais pas envie de me prouver quoi que ce soit. Je voulais faire quelque chose, et c'est un drame, parce que j'ai laissé tomber la musique. Il y a combien? Je sais pas moi. Depuis 54 que je ne fais plus de musique. C'est abominable. Et j'ai plus envie. Parce que c'est une nouvelle, une autre carrière, c'est une autre chose. Il faut rentrer dans un autre cycle. Et comme j'ai pas le temps, comme j'ai pas le goût de le faire, je croyais au Père Noël. Quand j'écris ce tarif, j'ai mis un an. Un an à travailler tous les jours, c'est difficile. J'ai mis ça en musique, la chanson du mal-aimé, c'est une chose monstrueusement longue. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, devant Apollinaire. Et puis j'ai orchestré ça le mieux possible. Puis un beau jour, je suis allé avec mes feuilles, avec tout mon paquet de musique, tout fini, chez à la radio, où il y avait un directeur des programmes, qui s'appelait Gilson. Et au bout de 6 mois, j'ai demandé un jour, on m'a envoyé une lettre en me disant que c'était refusé. Et 2 mois après, j'étais à la Requin, et un soir, il y a le prince Régnier qui était venu avec son directeur de cabinet. Et le prince Régnier, je le connaissais comme ça, quoi. Moi, je suis monégasque. Et ma femme, Madeleine, me dit à ce moment-là, écoute, demain, va demander rendez-vous. J'ai demandé un rendez-vous, il m'a dit je reçois demain. J'étais avec ma musique le lendemain, et il m'a dit je viens chez vous cet après-midi pour écouter. J'ai fini un chanteur qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est un garçon remarquable, Jacques Douai, pour chanter les choses importantes. Et puis moi je chantais le reste, tout ça au piano. Ça durait même 50 minutes. Il a écouté ça, et il m'a dit je vous donne l'opéra de Monte Carlo. Mais ça dure comme il dit 50 minutes, il me dit c'est pas assez, vous faites quelque chose pour la première partie. Et j'ai écrit comme ça en 15 jours une symphonie, que j'appelais la symphonie interrompue. C'est une œuvre, musique à programme. Et en 54 avril, un beau jour, je serai à Monaco. J'avais fait une fois une chose à la radio, mais enfin très petite, avec un petit orchestre. Je suis donc monté au pupitre, à ce pupitre que j'avais vu toute ma jeunesse, où j'avais vu des choses comme Parsifal, enfin, des choses extraordinaires, de grande musique, et où j'avais toujours l'œil sur le chef d'orchestre, quand même, parce que je trouvais ça miraculeux. C'est que c'est le plus beau métier du monde. Et je me suis mis là, et j'ai dirigé ça. J'ai donné le coup de baguette, comme ça, à quelque chose que j'avais fait, que j'avais mis sur le papier, et avec moi qui savait ce que c'était que cette musique. Et tout ça prenait vie. C'est incroyable. Formidable. Ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais chez Odéon en tant qu'artiste de variété. J'ai dit, au moment où vous avez renouvelé le contrat, vous savez, quand on renouvelle le contrat, on donne un petit peu d'argent, pour une espèce de prime pour renouveler, pour rester dans la maison. Et j'ai dit, moi je veux pas d'argent, mais j'ai dit au directeur artistique, j'ai dit, tu m'enregistres les fleurs du mal de Baudelaire. C'était un cadeau que je leur faisais, quoi. Il m'enregistrait le disque au lieu de me donner de l'argent. C'est comme ça que j'ai fait les fleurs du mal, les 12 fleurs du mal, et puis la chanson du mal-aimé. Ils l'ont fait. Le disque s'est vendu, je sais pas, il est épuisé depuis longtemps, n'en parlons plus. Et j'avais poussé l'orgueil jusqu'à demander à avoir l'orchestre de l'ORTF, l'Orchestre National. Et comme l'Orchestre National était chez Pathé Marconi, et comme Pathé Marconi contrôlait Odéon, j'ai pu avoir l'Orchestre National.
Dans les portes.
voulez-vous que j'écrive de la musique? Vous savez que demain, moi je voulais cette année, ou l'année prochaine, me louer l'amoureux, l'orchestre amoureux. C'est bon, très bien, c'est ce qu'avait fait Munch. Munch avait du génie, mais Munch un jour était violoniste à Strasbourg, puis un jour il s'est bien marié, il a pu avoir un peu d'argent, il s'est loué pendant un an l'orchestre de la Société Conservatoire avant la guerre. Il a pu donc montrer aux gens qui il était, n'est-ce pas? Sinon Munch il serait encore violent. Et je voulais me louer à l'orchestre, parce que moi je laisserais tout tomber. Si demain je suis chef d'orchestre, je laisse tout tomber. Je fais ça, voilà. C'est mon problème. La musique, c'est encore une question de solitude, mais ça chante alors. La solitude qui chante, c'est merveilleux.
Et vous pensez que vous allez l'exécuter ou pas?
Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être pas, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai envie. J'ai envie. Il n'y a que ce moyen-là. Il n'est pas possible que je demande à quelqu'un de mon dessin. Pas possible.
Et depuis 54, vous n'avez rien écrit, en dehors de vos chansons, vous n'avez rien écrit?
J'ai écrit des choses comme ça au piano, que je dois orchestrer, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas un peu désespéré, quoi. Tout inutile, et puis au fond, à quoi ça sert?
Votre rencontre avec les poètes, vous avez parlé tout à l'heure des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Bon, finalement, il y a eu comme ça quelques poètes que vous avez rencontrés, Baudelaire et Aragon, bon, oui. L'un mort, l'autre vivant.
Oui.
La poésie vous tente pour la chanson.
Mais ça, c'est une chose que j'ai faite comme ça, parce que ça m'amusait de faire le musicien pour des choses que je n'avais pas écrites. Et j'en ai passé pour Baudelaire comme ça un jour, je ne sais pas pourquoi.
Apollinaire, Baudelaire, Aragon, c'est
finalement. Verlaine
aussi. Verlaine et Rimbaud, c'est vrai, il y a un double album, oui.
Et puis, je vais faire Apollinaire. Ces temps-ci. Et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, j'ai fait connaître des poètes à des gens. Vous savez que tous les gens ne savent pas qui est Verlaine, Rimbaud et Baudelaire. C'est vrai. Et un jour, j'avais mis Ruth Boeuf en musique.
Oui,
j'ai dit qu'il a écrit ça au XIIIe siècle, enfin, ces paroles qui auraient pu être écrites aujourd'hui.
John Baez vous chante, d'ailleurs.
Oui. Et un jour, j'étais à lui, je faisais mon marché. Il y a longtemps de ça. Et un camionneur qui descend de son camion et qui me dit, qui me tape sur l'épaule, qui me dit, Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf? Qu'est-ce qu'il avait retenu? Il avait retenu une bœuf comme ça. Il ne savait pas, c'est ça qui est important, parce que les gens, la musique, la viole les gens, l'oreille des gens. Et même les gens incultes, les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas été à l'école. Ils reçoivent la musique d'abord, et puis après ils écoutent quand même. C'est ça la chance de la chanson. Bon, la poésie ne se lit pas, mais la chanson, la poésie mise en musique s'écoute. Voilà.
Et la rencontre, alors avec, bon, la rencontre avec les poètes morts, c'est l'œuvre. La rencontre avec Aragon, c'est l'œuvre et l'homme quand même.
Oui, alors ça c'est bizarre, parce que j'étais en 56, je suis rentré à la librairie La Une à Saint-Germain-des-Prés, j'ai acheté au rayon de poésie, et j'ai acheté un livre d'Aragon qui s'appelait Le roman inachevé. Aragon, je le connaissais comme ça de loin, quoi. On s'était vu deux fois comme ça, mais on se sert à la main, quoi. Comme on fait dans ce métier, on connaît beaucoup de gens, bien évidemment, on ne connaît personne. Et je suis rentré chez moi, j'étais seul, j'ai ouvert le livre, j'ai mis en musique deux, trois poèmes comme ça. C'est-à-dire que j'ai improvisé. C'est le seul critère pour moi. Parce que si je travaille sur quelque chose, j'ai le sens critique, et puis je me dis, bon, pourquoi pas ça, pourquoi pas cette musique plutôt qu'une autre, quoi. Il faut donc que ça vienne tout de suite. C'est ce que j'ai fait avec Aragon. Alors quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire des choses avec ça. J'ai téléphoné à Catherine, qui le connaissait bien, qui a téléphoné à Aragon. Aragon, je l'ai vu, et j'ai mis 10 chansons en musique, il était très content, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis je l'ai beaucoup mieux connu, bien sûr.
Mais les échanges se sont passés après à d'autres niveaux. Enfin, vous avez de bons contacts avec l'homme Aragon, enfin c'est...
Oui, c'est particulier. Moi je trouve que c'est un homme charmant. Très gentil. C'est un bon camarade. C'est un type qui a une vie double. Je pense qu'il est toujours surréaliste.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous
vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent comme tu, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure, où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets, j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, je chante.
Vous êtes tiré entre deux pôles parce que vos études ont été, vous avez fait des études classiques, des études de philosophie, tout ça. Bon, vous êtes finalement à la fois un littéraire et un musicien. Et on sent bien que, en dehors de certains problèmes fondamentaux, pour ce qui est de la façon de vous exprimer, vous êtes tiré entre ces deux, ça, parce que vous avez envie d'être chef d'orchestre, et vous pourriez être aussi écrivain.
Et oui, c'est un malentendu, ça, c'est un peu, c'est à la fois ma chance et mon drame, quoi.
Et finalement, vous faites de la chanson et de la poésie en musique, ce qui est une espèce, une tentative de synthèse des deux événements.
Et oui, c'est ça, mais enfin, je vous dis, mais de toute façon, il ne faut pas que je me plaigne, parce que moi, j'ai la chance, et je reviens à ce que je vous disais au début, c'est que j'ai de la voix. Et s'il n'y avait pas de moi, je n'écrirais pas de chanson. Et avant tout, je suis un chanteur. C'est merveilleux d'avoir la voix, vous savez, pour envoyer ça dans la tête des gens. C'est extraordinaire. Vous voyez, moi, un type qui veut faire un récital de poésie dans le théâtre, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça. Pourquoi? Parce qu'il manque la musique. C'est tout. La musique, c'est une putain, un véhicule. Ouais. C'est une charrette admirable.
Et vous pensez que c'est curieux, mais si vous n'aviez pas eu cette voix, peut-être vous n'auriez pas pensé écrire de chansons.
Sûrement pas. Alors ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est absolument certain, ça. Parce que je chantais, c'est tout. Alors je me suis fait, sans savoir, moi, un petit matériel, mais sans savoir que j'arriverais à faire ce que je fais maintenant, du tout. J'avais prévu ça.
Est-ce que vous avez une idée de la façon, justement, dont ça s'est articulé dans votre vie? Bon, on a parlé tout à l'heure du moment où vous êtes monté à Paris et où vous aviez un certain nombre de problèmes avec les cabarets et tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a eu le saut vers les grandes salles. Est-ce que ça s'est passé tout d'un coup? Ça s'est passé comment?
Difficile, ça, parce que, oui, j'étais à l'Olympia en 54.
Brusquement?
Oui, la première fois. 54 à l'Olympia, j'étais avec un piano, je finissais la première partie.
Mais comment vous avez été engagé?
Par Cocatrix, à ce moment-là. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était fait. Il y avait l'imprésario, parce que vous savez qu'il y a toujours des imprésaries. Bon, je ne me souviens pas les détails. Alors, je suis passé avec mes chansons au piano. Je finissais la première partie, c'est-à-dire un peu avant, derrière moi, il y avait le trio Reznor, vous savez, qui joue l'harmonica. Et en deuxième partie, il y avait cette femme incroyable qui s'appelle Joséphine Baquet. Et ça avait bien marché pour moi. Et l'année d'après, en 55, je suis passé dans la deuxième partie, ce qu'on appelle passer en vedette. Ça a très bien marché. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou énorme. De 4 ans. Pendant lesquels j'ai été. Je me suis produit très peu. Ça a été dur, très dur pour moi. Et puis après, petit à petit, j'ai fait Bobino un jour en 58.
Finalement, il y a eu entre 54 et 58, 4 années pendant lesquelles vous n'êtes pas passé dans une grande salle à Paris.
Oui.
Sans explication.
C'est le cabaret, petit truc. Sans explication, non, parce qu'il n'y avait pas de raison, quoi. J'étais ce que j'étais, j'étais au cabinet, quand même. J'étais des faux, j'étais des gestes. J'étais grandiloquent. Ça, c'est difficile, ce métier. On apprend à être le plus difficile, c'est d'apprendre à rien faire. Vous savez, quand vous vous sentez sur une scène, il faut vraiment avoir. Moi, je me rends plus compte maintenant. Mais vous êtes sous des projecteurs, et puis il y a des gens qui vous regardent. Enfin, vous êtes seul en scène. Et alors, vous bougez, parce qu'on bouge, parce qu'on est mal. Comprenez. Donc, le plus difficile, c'est de rien, pas bouger. Et ça s'apprend année après année, quoi. Année par année. C'est difficile.
Verlaine est mort dans la détresse, Rembrandt est mort, l'huissier aux fesses, Beethoven est mort dans la merde, j'ai que ce mot-là, faut pas qu'on le perde, faut distraire le profane. Verlaine est vivant au lycée, Rembrandt est vivant au musée, Beethoven vit chez l'amoureux, tous les dimanches que fait le bon Dieu, quand il est mélomane.
Vous savez, il y a une chose qui est très impressionnante, c'est Nietzsche qui est mort fou. Il a eu plusieurs crises, sa dernière crise, il l'avait eu à Turin. Il a eu la crise en même temps, dans la rue, qu'il a vu un cocher de fiacre qui battait son cheval. Et Nietzsche s'est pendu au cou du cheval en l'embrassant. C'est une chose merveilleuse. C'est ça que les fous, moi, j'aime bien. Je les considère, je les protège si je peux. Et ça m'a impressionné, ça. Quand j'étais petit, j'avais un oncle qui avait un chien qui s'appelait Dick. Et ce chien, mon oncle, il allait dans des bistrots comme ça. Et puis, de temps en temps, il venait chez ma mère, m'apportait des croissants pour moi. Et ce chien, des fois, il était seul à la maison et l'oncle était parti. Et il pourrait être amoureux, le chien. Et il changeait de tramway au moment où il fallait changer. C'est extraordinaire. Ça s'appelait Dick. Il avait peur du canon. Et comme on tirait le canon, des fois, pour des fêtes à la con qui se passaient dans ce pays, un jour, il était tombé des remparts, il s'est tué, je crois, il est disparu. Et je m'étais dit, un jour, j'aurai un chien. Et Dieu sait si j'ai eu des chiens. Et je suis toujours... C'est un esclavage merveilleux. J'ai eu des chiens, j'ai eu tout, j'ai des faux. J'ai acheté, quand j'étais dans l'autre, j'avais acheté un jour 46 moutons. 46 moutons pour les garantir de l'abattoir. D'ailleurs, je ne suis pas arrivé, j'ai acheté un cochon qui pesait 400 kilos, qui était le plus beau cochon du département, qui était énorme, qui était extraordinaire. Vous savez que c'est intelligent, un cochon. C'est propre. Je l'ai appelé Baba. On me l'a tué en même temps que Pépé. J'ai eu des vaches.
Pépé, c'était un singe.
Pépé, c'était un chimpanzé. C'est une tragédie. Un chimpanzé, c'est... Faut même pas parler de chimpanzé parce que c'était une merveilleuse histoire. C'était une fille extraordinaire. Le seul enfant que j'ai jamais réussi à faire à une femme, c'est un chimpanzé. Et... C'est adorable. Avec le fait que d'abord c'était très intelligent, et puis c'est envahissant. Et comme j'avais pas le goût ni le talent du dressage, c'est elle qui m'avait dressé. Alors c'était terrible. Parce que c'est jaloux, ça mord des gens, et quand ça mord, le chimpanzé a la plus forte mâchoire du monde. Dans le règne animal, c'est la plus forte mâchoire. C'était adorable. Il parlait, il comprenait tout. Extraordinaire. Et je l'amenais dans la campagne, comme ça. Je passais des heures avec elle. Elle montait sur ses arbres à regarder, comme ça. Elle fumait le cigare italien, le toscan, avec moi. Puis elle avait appris à cracher, comme ça. Et puis il revenait de temps en temps. Et comme une espèce de chose fraternelle, comme si j'étais trop seul, elle redescendait son arbre, elle arrivait et me faisait oh, 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 en tapant sur l'épaule, puis elle repartait. Vous savez, puis on m'a tué, ça. Un jour, je suis parti de la maison, puis je suis revenu, elle était morte. J'ai tué un coup de fusil. Les gens qui étaient près de ma maison avaient trouvé un cousin, eux, qui était le meilleur tireur du Lot. Qui était venu, qui avait, sur commande, qui avait accepté de tuer cette petite dans son lit. Après qu'on l'ait drogué.
T'avais les yeux comme des lucarnes. Pépé, comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé. J'ai les ferrés. Pépé, pépé, t'avais le cœur comme un tambour, pépé. De ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies tandis que toi t'en avais 8. Le 7 avril de 68.
C'était mémorable. Léo Ferret s'entretenait avec Émile Noël en 1971. Demain, quatrième entretien, la minorité de la nuit.
Hello.
What's this?
A kinetic art object.
What?
France Culture, partenaire de Coming Apart, un film inédit de 1969 de Milton Moses Ginsberg. Psychanalyste new-yorkais, Joe Glaser dissimule une caméra dans son appartement et filme tout ce qui s'y passe, notamment sa vie intime avec les femmes. Tourné en plan fixe et unique, audacieux dans sa forme et son propos, Coming Apart place le spectateur en voyeur. Jugé scandaleux à l'époque, ce film se révèle être aujourd'hui à la fois novateur et témoin de son temps.
Est-ce que c'est vieux ?
Coming Apart, un film à découvrir en salle le 14 juillet, à retrouver dans les émissions de France Culture.
I feel good. I feel great. I know the
police don't save us. When I have this machinery on for.
France Culture vous invite à la projection de ce film mercredi 14 juillet au cinéma Utopia à Avignon. Vos réservations au 32 30. Tapez étoile, puis 2 et 3 pour France Culture. 34 centimes d'euros la minute. Pour contacter le service des relations auditeurs et retrouver toutes les offres de France Culture, un seul numéro depuis votre téléphone fixe ou mobile, le 32 30, 34 centimes d'euros la minute. 32 30.